dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Hein. Et oui, l'équipe de France a été battue hier 14 à 9. On reviendra hein, dans la deuxième partie de cette matinée sportive et bien sur la défaite du 15 de France contre l'équipe d'Angleterre. Hein. Et on saura ce soir qui de l'Afrique du Sud ou qui de l'Argentine jouera donc la finale contre l'équipe anglaise. L'équipe de France, elle retrouvera donc pour la circonstance le Parc des Princes. Ça avait bien commencé pourtant cette journée avec l'équipe de France de foot hein, qui avait, malgré quelques avatars de voyage, j'avais donc réussi à donner une bonne spirale au sport français en s'imposant aux îles Féroé 6 à 0. On attend donc d'un moment à l'autre monsieur le député Jean-Frédéric Poisson qui viendra justement dans la première partie de cette émission et vient nous parler une nouvelle fois de sa passion du sport et donc projeter un peu le regard sur l'abondante actualité sportive donc du moment. Voilà, donc pour l'instant la pub, la pause musicale et ensuite on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. On y va. Voilà, effectivement, donc les 103.7, on est ravis eh bien, d'accueillir encore un féru de sport, hein, monsieur Jean-Frédéric Poisson, le député des Yvelines. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour.
Ravi, je l'ai dit, donc d'accueillir quelqu'un qui est un véritable passionné de sport. Hein, oui. On connaît votre passion pour le sport. Bon, vous êtes devenu député depuis le mois de juin. Est-ce que vis-à-vis du sport, ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez plus de temps, moins de temps pour assouvir votre passion?
Alors, moins de temps, sans doute un peu moins de temps, oui, mais... Ça n'a pas changé non ni mon intérêt pour toutes les disciplines sportives et puis dans le peu de temps libre que me laisse la mission de représenter la nation à l'Assemblée nationale, je trouve quand même le temps de consulter les journaux, les sites internet, enfin je continue à alimenter mon information et ma passion et puis de regarder les événements à la télévision comme c'était le cas hier soir, mais je crois qu'on en parlera un petit peu après.
Bien sûr, et je suis sûr qu'au Palais Bourbon on parle beaucoup de sport. Hein.
Ah oui.
Allez, entre nous, on prend le temps de temps à autre d'aller voir un match de foot ou un match de rugby.
Ah bon, on est assez régulièrement convié à des événements sportifs, donc oui, j'ai un certain nombre de mes collègues qui prennent ce temps-là, c'est évident. Et puis, en plus, si vous voulez, il y a des amicales sportives et des clubs de sport à l'Assemblée nationale. Il y a même une salle de fitness, voyez-vous, pour entretenir sa forme, oui. Et figurez-vous, je ne sais pas si c'était venu jusqu'à vous, mais j'ai été membre de l'équipe de rugby du Parlement français pour jouer la Coupe du Monde de rugby au mois de septembre, avant la vraie Coupe du Monde, cette fois. Ouais. Et donc, vous voyez, il y a une activité sportive à l'Assemblée qui est quand même assez intense, oui.
Au niveau du sport, pour un député, quel est le rôle actif d'un député de circonscription en matière de sport sur
Alors,
terrain.
Le premier rôle, c'est de soutenir.
Oui.
Et comment soutient-on? Eh bien, on intervient auprès des autorités pour débloquer les situations et on assiste aux manifestations. Et parfois même, on y participe. C'est ce que je disais à Poigny l'autre fois lorsque j'ai encore terminé dernier cette année de la gentleman, mais c'est un honneur pour moi de la courir. Il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets, pour un député, puisque le député n'a pas de responsabilité d'exécutif local. En revanche, notre position nous permet d'être des interlocuteurs, la plupart du temps courtoisement écoutés par ceux à qui on parle, et surtout de soutenir, encore une fois, par notre présence et notre participation. Je pense que les organisateurs, en particulier les bénévoles, sont sensibles au fait que les élus, et en particulier les parlementaires, prennent de leur temps pour venir assister et participer parfois aux manifestations qu'ils organisent. Après, c'est un travail, j'allais dire, habituel de transmission de dossiers, d'intermédiation par courrier ou par personne sur des choses un peu difficiles, mais rien de très différent. Je pense vraiment le soutien et la présence sont des choses qui sont importantes et auxquelles les gens sont sensibles.
Très bien. Alors, vous êtes aussi le maire adjoint sur Rambouillet.
Oui.
La rentrée, vous l'avez vécue comment en matière de sport sur Rambouillet?
Je crois globalement plutôt bien. Il y a un gros afflux, comme bien entendu partout, au club de rugby chez dans l'école des jeunes, puisque il y a eu, je crois, quasiment un doublement des enfants inscrits à l'école de rugby. Enfin, le chiffre est sous réserve, mais je crois que l'ordre de grandeur, c'est celui-là. On est passé au-delà de 200, en tout cas, pour l'école des jeunes de rugby. Nous avons tenu un forum des associations dans le parc du château.
Ah oui, sympa, ça.
Au mois de septembre, le premier week-end de septembre, le deuxième week-end de septembre, qui était une très très grande réussite, avec un temps absolument magnifique, où les gens ont pu venir s'inscrire et proposer, choisir faire des activités pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Troisièmement, nous avons des clubs qui fonctionnent, ma foi, bien. Le rugby dont je viens de parler se tient bien, comment dire, sur le plan francilien. Le handball vient de monter d'un échelon. Ça sera un petit peu plus difficile à cet échelon, mais c'est bien normal. Mais le travail que fait Dominique Fancelli avec ses équipes et Christian Tellier est formidable. Le football, bah, ma foi, on attend l'étincelle qui va venir certainement cette année, pourquoi pas. Le volet féminin se porte bien. Le basket vient d'être agréé par Ligue pour et la fédération, même pour un club être une espèce de club d'école et exemplaire en matière de formation. L'athlétisme se porte bien, le judo aussi. Enfin, je vois.
Les sports individuels ont de bons résultats. Hein,
toujours. C'est de tradition. Les sports de combat aussi. Un peu moins connu parce que nous avons de très grands champions d'Europe ou du monde parfois qui sont des champions du monde, soit en corpo, soit en militaire ou des choses comme ça. Mais enfin, même champion du monde militaire ou corpo, vous savez, faut y aller quand même. Hein, c'est pas bon. Avec des clubs qui se développent très bien. La savate aussi, la boxe française fait organiser l'année dernière les championnats départementaux. J'étais moi-même à la remise des prix et puis. On a des athlètes qui montent maintenant aussi de catégorie. Donc tout ça est dans un bon vent intéressant. Et nous terminons cette année, dans quelques semaines, la piste d'athlétisme à Rambouillet qui permettra au club d'athlétisme d'avoir les installations qu'il attend depuis un petit moment, un long moment même. Et que, nous avons... je m'étais engagé à ce qu'ils soient réalisés quand j'étais encore maire de cette ville. Dans le courant de cette année, ils le seront. Donc tout ça est bien. Donc je crois que le sport à Rambouillet se porte bien.
Oui, alors justement, au niveau infrastructure, il y a des choses qu'on va moderniser, qu'on va donc conclure. Parce qu'on nous a dit, au stade du Vieux-Moulin, il n'y a pas tout encore.
Oui, c'est vrai.
Donc...
C'est vrai, mais ces remarques sont justes. Je ne peux pas dire qu'elles ne soient pas, mais je... le maire de Rambouillet, Gérard Larcher, en parlerait mieux que moi. Nous avons eu au Vieux-Moulin un problème simple qui était un problème de conception du projet initial et de sollicitation des entreprises et de réponse aux appels d'offres. Bon. Quand on cumule ces deux aspects, nécessairement on prend du retard sur les projets. C'est très simple, c'est comme partout, nous avons des règles à respecter en matière de marché public. Si ces règles ne sont pas respectées, c'est-à-dire si vous sollicitez des entreprises qui ne répondent pas dans l'enveloppe que vous avez définie, vous ne pouvez pas les choisir. Donc il faut recommencer la procédure. Alors on a fait conjointement, défini un peu différemment un certain nombre de choses par rapport au projet initial, relancer les appels d'offres des entreprises. On aura ces vestiaires et on aura ces équipements, puisque je pense que c'est à ça que vous faites référence.
Oui, donc qu'on rassure les clubs concernés. Hein,
non, mais ils le savent bien. Ils le savent très bien.
Un peu de patience et puis ça va arriver.
Voilà, c'est ça. On les a pas oubliés. Et j'ai deux, trois visages en tête qui me font le coup à chaque fois. Qu'est-ce que ça devient? Vous tenez pas aux promesses, machin. Si, on tient nos promesses, mais on n'est pas tout puissant et il y a des contraintes dont on ne peut pas s'affranchir. Donc, on est attentif aux clubs. Je comprends qu'ils soient déçus parce qu'il va falloir attendre un peu de temps supplémentaire. J'ai entendu ça, mais j'avais pris l'engagement étant encore maire et puis Monsieur Larcher l'a évidemment repris à son compte. Ces équipements seront construits maintenant une fois qu'on sera sorti des contraintes et des calendriers normaux, c'est tout. Mais il n'y a pas de.
Et pour le tennis de table.
Ah, tennis de table, c'est réglé, voilà. C'est réglé, je crois. Enfin, il me semble, on a toujours des problèmes d'ajustement, de subventions, sur en particulier les tennis de table qui. Alors un démarrage de saison un peu difficile lui aussi pour le coup, mais bon c'est pareil. Je veux dire qu'on commence à avoir à atteindre des niveaux là aussi qui sont un peu qui sont d'excellence, donc forcément c'est plus compliqué. Non, mais je pense que alors du point de vue des infrastructures pour le coup ça me paraît à peu près réglé, tennis de table, enfin dans l'état de mon information. Maintenant qu'il y a des ajustements de subventions avec le président du tennis de table Philippe Marest est un homme tenace. De mon point de vue c'est une qualité. Donc voilà, je pense qu'il sera amené à reparler très prochainement avec les services de la ville.
Alors on a aussi appris que le golf allait être inauguré l'année prochaine, pratiquement à cette époque-là. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Hein.
Bien sûr, c'est trois fois une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle c'est pour les amateurs de golf eux-mêmes, qui seront contents d'avoir à tout près de chez eux un parcours. Alors c'est un parcours compact urbain, c'est pas le golf de la Boulie ou celui d'Augusta, on est d'accord. Hein. Il n'y aura pas trop de 450 mètres, il n'y a pas de par 5, il n'y a pas tout ça. Enfin c'est quand même à golf. Et les praticiens, ceux qui sont déjà très bons, pourront venir s'entraîner avec un practice, avec un parcours compact. Enfin non, c'est une très très bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est une bonne nouvelle pour la protection de l'environnement, parce que malgré tout, il y a ces 18-20 hectares de l'hippodrome qui sont offerts à tous, certes, mais justement, il faut que ça soit pas tout tout à fait offert à tous non plus, parce qu'on ne voudrait pas que ça soit à terme, même à long terme, un lieu urbanisé ou construit. Donc c'est une manière de préserver aussi cet espace, de le geler d'une certaine manière, en y installant des pratiques qui sont très très proches de l'environnement et de la nature. Troisièmement, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne jouent pas au golf. Parce que nous avons, dans le cahier des charges de ce golf, avec le constructeur et l'exploitant, indiqué que nous souhaiterions à la fois les écoles et les adultes qui ne pratiquent pas ce sport puissent venir s'initier facilement et à des prix qui soient raisonnables, on va dire. Donc ça veut dire que nous allons travailler à une charte avec les écoles pour que les petits-enfants des écoles puissent venir taper quelques swings dans la semaine ou dans le mois. Et puis, bien entendu, il y aura tout l'équipement normal pour les adultes, l'initiation, etc., pour ceux qui veulent apprendre. Donc c'est une très très bonne nouvelle. J'ajoute une quatrième bonne nouvelle, si je peux me permettre, c'est comme les trois tiers du pastis de Fernandel. Ça va faire que ça va continuer et renforcer de la vie à cet endroit.
Oui.
L'hippodrome est un lieu que les Rambolitains aiment bien. Je crois, au-delà de la ville de Rambouillet, toute la circonscription, l'arrondissement, connaissent ce lieu et l'apprécient, ils viennent nombreux. C'est bien qu'il y ait une activité permanente à cet endroit pour maintenir également la vie à l'hippodrome de Rambouillet. Ce sera formidable, évidemment, tout le monde est bienvenu.
Oui, on a les pronostics, donc des courses tous les dimanches sur Rambouillet. 9 réunions par an, hein, c'est vrai que ça fonctionne bien.
Oui.
Et puis le trophée vert, à nouveau l'année prochaine, le 22 juin, c'est ça?
C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Là encore, ça consacre de très très longs efforts qui ont été réalisés par le président Éric Poisson et son équipe d'administrateurs qui font un travail colossal avec mon collègue Jean-Claude Lémarie, l'élu délégué de Rambouillet, qui suit ça de près avec d'autres élus de la ville. Mais il y a là un travail de 10 ans pour faire de cet hippodrome une piste, lui donner une piste capable d'accueillir des courses de ce niveau, parce que ça réclame une qualité de gazon, de terre, enfin il y a tout un tas de tâches à accomplir, bien sûr, sur le plan, j'allais dire, purement naturel, agricole presque. Donc nous récupérons ce trophée vert à nouveau, c'est une bonne nouvelle financière ça pour l'hippodrome, puisque, comment dire, évidemment, le nombre de paris sur une course du trophée vert du Paris PMU est tout de même un peu différent, à la hausse bien sûr. Donc voilà, là encore, nous continuons de faire tout ce que nous pouvons pour préserver, faire vivre ce lieu et faire en sorte que dans les décennies qui viennent, eh bien, ne s'y passe que des manifestations, comment dire, capables de s'insérer dans ce cadre magnifique de forêt de verdure qu'est l'hippodrome de Rambouillet, le golf, les chevaux, le salon de la chasse bien sûr qui reviendra très 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 certainement, et puis d'autres choses, des brocantes, enfin des choses qui sont respectueuses de ce cadre-là, c'est qui est si important à préserver pour nous.
Et puis au niveau manifestation, donc en 2008, il y aura naturellement les traditionnelles épreuves des semi-marathons et des 10 km. Hein, ça, ce sont les temps forts de la saison sportive sur Rambouillet.
Ah ça, ce sont presque des marronniers maintenant, c'est-à-dire que tous les ans, il y avait le triathlon aussi, dimanche dernier, qui est une belle épreuve aussi, qui prend un essor important. Le problème de la course du château et du semi-marathon de Rambouillet, c'est qu'on commence à refuser des inscrits.
Ah oui.
Mais pas 3 ou 4. L'année dernière, c'est par dizaines que ça s'est compté, le refus d'inscrits, en particulier pour le semi-marathon. Et j'avais eu des coups de téléphone, je me souviens, à mon cabinet, pour dire, monsieur le maire, j'ai un tel ou tel rambolitain, je connais un monsieur qui vient de je sais pas où, qui est un de mes amis, il faudrait courir la course, il peut pas, il n'y a plus de place, etc. Donc ça veut dire que c'est un succès énorme, parce que ces courses sur route qui étaient autrefois un parcours urbain, on se rappelle la corrida de Houille, enfin il y a quelques exemples très célèbres et très anciens, de courses sur route ou Paris-Versailles, bref.
Oui, qui est reparti d'ailleurs, hein, qui a recommencé il y a 15 jours.
Ouais. Absolument. Il y a cette tradition de courses sur route en ville. Et à Rambouillet, nous offrons des courses sur route, pas en ville. C'est-à-dire c'est quand même des parcours goudronnés. Ouais. Ou si c'est pas goudronné, c'est du chemin stabilisé, mais en tout cas dans un cadre de verdure que tout le monde connaît ici et que nous aimons tous. Et c'est pour ceux qui courent un facteur de différenciation et d'attraction sans équivalent. Ce qui fait que la demande augmente sans cesse du nombre d'inscrits et de gens qui veulent participer à ces courses-là, mais ça se heurte à nos capacités d'organisation, ne serait-ce qu'à la largeur des routes. Enfin, il y a un moment où on peut plus accueillir tout le monde. Donc, cela devient, commence à être des compétitions dont la réputation est sur le plan sportif tout à fait respectable et plus que ça, dans un cadre extraordinaire, avec un travail là encore des organisateurs qui est fabuleux, parce que le semi-marathon et Rambouillet Olympique bossent comme des comme des spartiates pour faire ça, et pour la course des organisateurs de la course du château pareil. Donc Je crois qu'il y a là une très très belle dynamique et qui est bien dans l'identité de notre région également. On ne va pas tarder sur ces événements à payer la rançon de notre succès, c'est-à-dire que on aura, les organisateurs, je pense, auront la cruelle décision à devoir prendre de refuser des gens pour courir. Mais bon, c'est signe que ce sont de belles courses et que sur le plan sportif, comme sur le plan de l'environnement et du cadre, ça tient la route, c'est le cas de le dire.
Ouais, c'est sûr. Hein. En tout cas, il y a toujours autant de monde dans les épreuves inscrites, et ce malgré les trails. Il y avait un beau trail de nuit sur Ophargis hier. Oui. Et c'est vrai que bon, ça manque peut-être encore un peu sur Ambouillet, mais il y a quand même encore un tas d'inscrits dans les courses à pied. Ça ne se dément pas. Hein.
Non, bien sûr. Oui, j'y sais. Non, ça ne se dément pas. Il y a un très bon signe. Hein, c'est quand vous allez dans les rayons des boutiques de sport, on ne sent pas que le nombre de mètres linéaires où on vend des chaussures pour faire des courses à pied, ce nombre de mètres linéaires de rayons ne diminue pas. S'il y a une demande d'équipement, c'est qu'il y a une demande de course et de coureurs.
Rambouillet, en matière de sport, plus le sport de masse que sport d'élite.
Ça, c'est pas facile à traiter comme question, surtout tôt le matin. Je ne sais pas si la réponse à ça peut être tranchée. Ouais. Je vais pas me défiler parce que c'est pas mon style, vous me connaissez bien. Il y a le problème du sport d'élite. Alors il y a deux, ça pose deux questions. La première question, c'est à partir de quand ça commence, à partir de quel niveau on parle de sport d'élite. Ouais. Ça, c'est quand même pas tranché partout, et je vous ferai remarquer que selon les disciplines sportives, le niveau change. Donc c'est très très difficile à estimer. Le deuxième temps de réponse, c'est que très franchement, nous avons, nous, collectivités locales, un problème énorme, c'est qu'à un moment, quand on monte d'un échelon, alors selon les disciplines, l'échelon n'est pas le même, mais il y a un échelon qui coûte incroyablement cher à la collectivité. Ça n'est que, j'allais dire, une question d'argent. Parce que, à un moment, je prends l'exemple des clubs qui sont en niveau de championnat interrégional, chez nous c'est le cas du tennis de table, quand il faut aller jouer à Beauvais, à Fontainebleau ou à Melun ou à Rouen, tout va bien. Quand il faut aller à Nice, à Perpignan ou à Biarritz, tout le monde comprend que c'est plus la même donne. Et que si on veut donner une chance à nos sportifs de figurer normalement, il faut pas qu'ils y aillent en stop, je force le trait exprès. Ni même en train, ça veut dire de l'avion. De l'avion, ça veut dire que c'est bon, on va pas leur demander de payer leurs billets, donc on les paye pour eux, puis il faut des accompagnants, etc. Donc les frais de fonctionnement et de déplacement augmentent considérablement. Les frais d'encadrement aussi, car vous ne pouvez pas, ne pas donner aux praticiens, aux athlètes, qui sont aussi des électeurs d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, aux athlètes des moyens normaux d'entraînement et donc des cadres, des personnes et puis un cadre matériel aussi qui conviennent. Donc tout ça également coûte des moyens. J'ajoute que dans certains cas, c'est le cas du handball par exemple, le club qui arrive au niveau régional, c'est le cas du club de hand masculin, la première masculine de Rambouillet, il faut fournir à la ligue un arbitre que vous payez de votre poche. C'est d'ailleurs vrai dans d'autres disciplines sportives, mais à niveau supérieur. Donc vous voyez que plus on va dans l'excellence et plus on monte de division, et plus le club, et c'est bien normal, sollicite la collectivité locale sur le plan financier. Donc en réaction, enfin par rapport à ça, la décision de la collectivité, elle est très simple. Est-ce que on accepte de rentrer dans une mécanique de dépenses? Mais je vous parle pas, c'est pas de passer de 80 euros à 150 euros, on parle pas de ça. On parle d'un doublement parfois, ou d'augmentation qui se compte en milliers ou en dizaines de milliers d'euros par an. Donc c'est pas rien. Donc par rapport à ça, il faut qu'on soit capable de définir une ligne d'action. Très franchement, c'est des choses que nous n'avons pas faites jusqu'ici parce que dans une large mesure, il n'y a pas le besoin, entre guillemets. Nous avions jusque-là uniquement, et là encore je mets des guillemets, des athlètes de très haut niveau, mais dans les sports individuels. Nous avons des athlètes qui figurent bien dans les sports par équipe, même de disciplines individuelles, je pense aux tennismen par exemple ou aux nageurs, qui ont de bons résultats par équipe sur le plan départemental, mais assez peu au-delà, sinon pas au-delà. Donc la question ne se posait pas. La question se pose maintenant de savoir si on peut se payer le luxe de se passer d'une politique sportive pour le haut niveau, ou du moins l'intermédiaire entre le niveau de nous tous et le haut niveau. Je pense qu'on n'en fera pas l'économie, donc ça va être très certainement un des enjeux du mandat prochain, c'est certain.
D'accord. Et puis aussi, quand même, avant tout, la vocation des clubs rambouillitains, ce sont d'être des clubs formateurs. Hein.
C'est quand même. Alors, ça, de toute façon,
les valeurs éducatives.
De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité. Le modèle du sport européen diffère en cela notamment du modèle de sport nord-américain que il peut y avoir de très grands clubs en Amérique du Nord dans les sports majeurs, hockey, baseball, football, basket, sans qu'il y ait de formation derrière ces équipes. La raison est simple, on peut acheter sa participation au plus haut niveau dans les ligues professionnelles américaines. Ce n'est pas un problème de niveau sportif pour entrer en NBA ou en NHL ou hockey, c'est un problème de grosseur du chèque. Bon, on achète une franchise commerciale, c'est tout. En France, pour accéder au plus haut niveau, il faut que sur le terrain, vous gagniez vos galons pour monter d'un cran à chaque fois. Ce qui nécessite d'avoir des réservoirs de jeunes, etc. Donc, tant que le modèle sportif de haut niveau en Europe sera tiré par les clubs formateurs et ne sera pas un système commercial de franchise, Les villes qui ont à la fois un rôle de structurant sur le plan du territoire, sur le plan des services, auront naturellement, je pense, cette vocation de club formateur, à la différence peut-être, mais ça n'est pas évidemment une critique à leur endroit, des clubs qui sont dans les villages alentours par exemple, où par définition il n'y a pas forcément la quantité suffisante de jeunes pour alimenter des équipes de poussins de minimes ou des plus jeunes, et donc il y a cette vocation de formation effectivement qui est naturellement je crois dans la vocation des clubs rambolitains, c'est vrai, mais là on est plutôt si vous voulez dans le sport dit de masse que dans le sport d'élite, c'est comme la musique, les enfants vont pas au conservatoire pour devenir concertistes professionnels. Ils y vont pour apprendre à jouer d'un instrument de musique correctement. On apprend, c'est pareil, dans les clubs, les fondamentaux et les normaux de chaque sport.
Et les petits villages qui donc s'associent pour créer des sections
très importantes. Très important, absolument, oui, formidablement important. Premièrement, là aussi, il y a un jour, et ce jour approche, une réflexion à avoir sur le plan des intercommunalités, puisque il y a plusieurs intercommunalités sur le territoire du Sud-Yvelines en ce qui concerne le sport, mais cette réflexion a commencé puisqu'il y a des équipements sportifs qui sont envisagés dans le cadre d'une coopération avec le Conseil Général des Yvelines. Deuxièmement, il est certain que la dimension intercommunale des clubs elle est naturelle, elle est réelle, mais comme partout en France, je veux dire, ça n'est pas différent de ce qu'on connaît dans les grandes agglomérations ou dans le monde rural. Dans le monde rural, tous les villages peuvent pas se payer le luxe d'avoir un club de chaque discipline, donc il y en a un qui a une discipline, celui d'à côté qui a l'autre, et puis on s'échange les pratiquants, les participants. Et puis, comment dire, quand c'est pas dans le village d'à côté, on vient jusqu'à la ville centre pour pratiquer sa discipline, ce qui explique que nous ayons dans nos clubs, je crois un peu plus de 20% des effectifs en moyenne qui sont des gens qui habitent les communes alentour. Pardon, 20%, c'est quand même une quantité non négligeable, mais c'est une proportion qu'on retrouve à la fois au conservatoire de musique, dans le lectorat de la médiathèque Florian. Je suis sûr que si vous faisiez des sondages dans les grandes manifestations de la ville, dans le public, vous auriez aussi cette proportion. Ça veut dire quoi là ? On est dans un flot normal, si vous voulez, de relations entre Rambouillet et puis les communes qui sont alentour.
Alors, on a une actualité sportive particulièrement dense et puis abondante. Oui. On vous a promis une petite surprise. Alors, on vous en dit pas plus.
D'accord.
Hein, c'est une actualité hors ballon ovale et hors ballon rond.
Bon, il y en a donc.
Oui. Hein, donc, effectivement, on aura une petite surprise aux alentours de 9h40, 9h45. Et puis, on va rappeler qu'aujourd'hui se terminent les trophées tennis Hervé, hein,
oui.
Qui donc concernent 5 clubs, La Clairière, Auffargis, Le Perret, et puis donc Lévis-Saint-Nom, hein, et puis donc Cernay-la-Ville. Donc, c'est la dernière journée donc de ces compétitions. Et il y aura la remise des récompenses la semaine prochaine dans nos studios. Par les sports, c'est tendance maintenant. Bon, vous êtes dans le milieu, nous aussi. Mais aujourd'hui, c'est bien. On parle de foot, de rugby dans les milieux autorisés. Il y a 15 ou 20 ans, c'était un peu ringard. Il faut le dire.
C'était pire que ça.
Oui, il faut le dire.
Moi,
c'est une belle revanche pour avoir du sport.
C'est sûr. Moi, qui suis un lecteur très voilà. habitué. Du quotidien sportif spécialisé dans le sport. On est à la radio, on n'a pas le droit de faire de pub.
Mais on avait Étienne Bonamy, le rédacteur en chef, qui était chez nous il y a deux semaines.
Oui, c'est ça, absolument.
Il y a 15 jours.
Donc on peut dire, alors, le journal d'équipe,
voilà.
Et des pages sportives de tous les autres quotidiens. Je me souviens de l'époque où, effectivement, quand je sortais l'équipe de mon cartable en étant étudiant ou jeune salarié dans l'entreprise, eh bien, on se moquait. Et puis finalement, en 20 ans, c'est vrai, 20 ans, 25, depuis 25 ans, on a connu un renversement très très important. parce que le sport lui-même, je pense, a changé de statut. Mmh. Et qu'effectivement, la conjugaison à la fois de la mondialisation du sport, qui est une réalité, hein, suffit de regarder la répartition des médailles aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde des grandes disciplines. Donc la mondialisation du sport, le fait que les investisseurs et ceux qui ont de gros moyens ont soutenu ce développement, cette mondialisation, notamment sur le plan médiatique, c'est pareil. Si on compare le nombre d'heures de sport qu'il y avait quand j'étais adolescent à la fin des années 70 par semaine à la télévision par rapport à ce qu'il y a maintenant, enfin, ça n'a aucune commune mesure. On n'est pas dans le même monde. Ouais. Et vous voyez de temps en temps le dimanche après-midi Jean Reynal qui commentait un match de basket sur la première chaîne. Après, il y avait Stade 2 déjà à 18h sur la deuxième chaîne, ou à 19h, c'était à l'époque d'ailleurs.
19h, oui.
Oui. Juste avant le journal, il y avait Téléfoot le dimanche matin. De temps en temps, un match de foot, un match de football de la Coupe d'Europe, parce que le championnat c'était pas possible. La finale de la Coupe de France quand même, avait tous les ans. Les Jeux Olympiques un peu, voilà. Maintenant c'est.
Et on a même connu l'époque où quand il y avait la prolongation, il fallait demander l'autorisation à la régie pour continuer.
Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai.
Ce qui était fou quand même.
Oui, 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 on avait bien ça. Puis il y avait le Tour de France déjà, bien sûr. Ouais. Roland Garros, ça commence dans les années 80.
Hein, oui, Borg, ouais. Voilà.
Donc c'était le temps de la lampe à huile et de la marine à voile, comme dit l'autre. Maintenant, maintenant c'est autre chose. Enfin, il y a du sport 24 heures sur 24 sur les chaînes de télévision. Je parle en dehors des chaînes hertziennes et je parle du câble du TNT ou de la télévision TNT ou par satellite. Donc on est dans un autre monde. Et effectivement, le sport a démontré que premièrement, il pouvait être dans ce monde où on fait attention à son corps, on a bien raison, et à la santé, bah, c'est un des moyens de se maintenir en santé. Deuxièmement, a démontré sa capacité à créer de l'événement collectif qui passionne, qui remet sur le premier plan des valeurs de la communauté, de la joie partagée, de l'émotion,
fédérateur, quoi.
Du spectacle.
Ouais, oui.
Voilà. Et en un mot, c'est ce que j'allais dire, c'est fédérateur. Il y a 25 ans, c'était un truc de spécialiste. Alors, il reste quand même une vraie différence entre les spectateurs occasionnels qui viennent au stade parce que c'est le moment et parce que tout le monde y va ou parce que tout le monde regarde, et puis ceux qui tout au long de l'année c'est comme les supporters des clubs, vous savez, les supporters quand ils gagnent et puis quand on gagne pas, il y a plus personne. Bon, ça va, c'est un peu il reste cette distinction qui est normale, c'est la différence entre les gens qui sont passionnés et qui suivront quoi qu'il arrive et puis ceux qui viennent rejoindre un peu l'événement quand il se produit. Mais c'est très bien, je pense que tout ça est positif. Je pense que les dérives du sport à l'heure actuelle sont aussi la conséquence de cet état-là.
C'est une question que j'allais vous poser, vous l'amoureux du sport, vous redoutez quoi comme dérive ?
Ah, très franchement.
Qu'est-ce qui vous fait peur ? Le dopage, la corruption, la violence ?
La violence, pas tant que ça, parce que très franchement, c'est un phénomène assez limité. C'est spectaculaire, c'est vrai, c'est grave. Surtout quand ça conduit à ce que des hommes meurent, c'est plus grave que ça, on peut pas faire, comme dit l'autre, surtout pour ces raisons-là. Mais ce sont des phénomènes circonscrits, c'est-à-dire ça touche le football dans certains clubs à certains moments de l'année. Point. Il n'y a pas d'autres, manifestations de violence dans le sport. Ou alors elles sont exceptionnelles. Mais je constate que c'est quand même limité ou quasiment limité à l'exercice du football. C'est un mystère sur lequel les sociologues s'arrachent la tête depuis que ça a commencé à poindre. Donc, je vais pas le résoudre ce matin. Mais non, c'est pas ma crainte. Le dopage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On sait tous que entre une préparation médicale au top et le dopage, la frontière est quand même pas toujours si claire que ça. Je sais pas très bien quoi dire et quoi faire. Moi, je fais partie des gens, comme je crois beaucoup, qui considèrent que le Tour de France serait pas moins spectaculaire s'il était couru à 32 km de moyenne au lieu de 39. Si les arrivées d'étape se faisaient à 17h45 au lieu de 16h45, tout ça pour avoir le temps de caler le truc pour le 20h, très franchement, les amoureux du vélo s'en tireraient aussi bien.
Bah, ça tombe bien, on va en parler avec notre surprise. Hein.
Ah, c'est une surprise vélo.
On avance
d'accord.
Un peu.
Voilà. Non, ce que je crains le plus, parce que c'est porteur d'un certain nombre de dérives potentielles importantes, c'est une américanisation du sport mondial. C'est-à-dire le triomphe ou la prééminence d'un modèle qui est fondé sur la capacité d'acheter le haut niveau plutôt que d'y parvenir. Parce qu'on sent bien que derrière le système généralisé des franchises à l'américaine. Je rappelle, si un de nos auditeurs ce matin décide d'engager une équipe en NBA, c'est-à-dire la Ligue professionnelle américaine de basket, eh bien, c'est pas du tout, il faut pas du tout faire comme en France. Si c'est en France, pour arriver à la Ligue A des clubs champions de France professionnels, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'inscrire en championnat départemental, puis monter les échelons un par un. Donc il y en a pour 20 ans, si tout va bien. Si tout va bien. Aux États-Unis, non, il faut juste faire un chèque d'environ 80 millions de dollars.
Oui, ça va pas le faire gagner les matchs.
Non,
ça va pas lui faire gagner les matchs, mais bon.
Non. Ça va lui donner la possibilité. Ça va lui donner la possibilité de garantir à la Ligue de basket qu'il y aura une salle, des spectateurs dedans, des télévisions, des droits de publicité, et que donc le club ne se mettra pas, que le club pourra payer sa redevance à la Ligue de basket. Après, le fait que le budget soit équilibré à 80, 100, 150, 200 millions de dollars et au-delà, tous les ans, ça veut dire qu'on peut se payer des joueurs. Alors, je sais bien que le fait de se payer des joueurs ne garantit pas les résultats. On a vu avec le Real de Madrid il y a quelques années que ça pouvait ne pas suffire, qu'on pouvait prendre tôle sur tôle en étant avec de très très grands joueurs. Mais néanmoins, c'est plus facile d'avoir des résultats avec des bons qu'avec des mauvais, ou des moins bons. Donc, cette manière de voir le sport, en fait, qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça dédouane les clubs de faire de la formation vers les jeunes. Ça propage le modèle selon lequel celui qui réussit en sport, c'est pas celui qui fait les efforts, c'est celui qui est riche. Et donc ça veut dire que ça n'est pas pour tout le monde, c'est un message de privilégié. Ça installe le sport dans sa dimension de spectacle et dans sa dimension de sport d'élite, au détriment, ce que vous disiez tout à l'heure, du sport pour tous, du sport grand public et du sport de masse. Quatrièmement, ça enferme le sport dans une relation avec l'argent qui porte en elle-même et la violence dans les tribunes et sur le terrain. Et sur le terrain. Le dopage, parce qu'il faut gagner à tout prix. Et les Américains, comment dire, si Floyd Landis est si long à être condamné, comme il doit l'être depuis longtemps, à mon sens, et si Armstrong est intouchable, alors qu'il est probablement plus chargé qu'on se connaît, eh bien, c'est parce que les Américains ont une tolérance incroyable par rapport à toutes ces pratiques. Marion Jones, qui est la dernière victime,
qui vient
d'avouer, a rendu toutes ses médailles. Du reste, au passage, on va en récupérer une sur le 4x100 mètres de Sydney, féminin. Eh bien, ça prouve bien que dans ce pays, une tolérance vis-à-vis de ce phénomène qui est plus importante qu'ailleurs. Et les basketteurs américains, qui sont certainement les athlètes les plus complets du monde, sont aussi ceux qui sont le plus chargés, le plus surveillés, le truc, etc. Parce qu'il y a absolument zéro contrôle. Si, alors, quand ils fument du cannabis ou qu'ils prennent de la coke avant les matchs, alors là, on les aligne. Parce que là, on est dans la morale nord-américaine qui est si hypocrite vis-à-vis de ces phénomènes. Cacher ce sein que je ne saurais voir. On veut pas qu'ils fument des joints, mais pendant ce temps-là, ils se mettent de l'OPO, de la créatine ou je sais pas quel mélange dans le truc. Il n'y a pas de contrôle, donc ils sont tranquilles. Donc, vous voyez, je crains plutôt cette américanisation du sport, ce triomphe du modèle des franchises sur le modèle du sport amateur qui fournit malgré tout, comment dire, les athlètes et les clubs que le reste. Le reste, je crois, découle du modèle de sport qu'on choisit.
Et puis il y a peut-être aussi cette notion de valeur de ce modèle qu'on risque peut-être de perdre à travers ces dérives. Pour un jeune qui fait du sport, on leur apprend que faut travailler, faut s'entraîner. Le sport est une école d'humilité et que bon,
on devient
ce modèle qu'on perd. Quoi.
On devient pas salarié d'un club de franchise NBA non plus par hasard. Avant de jouer à ce niveau-là, ce sont les meilleurs athlètes de la planète qui sont à cet endroit-là, sauf exception. Enfin, le niveau moyen est très supérieur à ce qui se fait ailleurs. Pareil dans les équipes de hockey sur glace ou de baseball, on a vraiment une forme d'excellence qui est tout à fait importante. Mais je disais, c'est au détriment du sport de masse. Pourquoi ? Parce que ça tente à montrer ou à dire que si vous n'êtes pas membre de l'équipe des Jets de New York ou je sais pas quelle équipe de hockey ou de basket professionnel, vous n'êtes rien. Il faut être ça ou rien. Eh bien, il y a entre ça et rien, il y a des échelons intermédiaires. Et il y a en particulier le plaisir, l'apprentissage humain, la pédagogie que l'on reçoit lorsque, petit à petit, on fait ses propres efforts pour progresser dans le sport qu'on pratique. Il n'y a pas que d'être champion qui compte, je suis désolé. Et par rapport au match d'hier soir, nous sommes quatrième, nous sommes dans les quatre meilleurs pays du monde au rugby. Il y a 180 des pays sur la planète, c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez, N'oublions pas que, comment dire, il y a autre chose que le podium et la victoire.
Bien sûr. Alors, la mauvaise passe du sport français, c'est vrai qu'on n'a pas été trop gâtés.
C'est pas brillant, donc
oui,
ça, c'est vrai.
Ces quelques mois. Vous avez une explication ? C'est un phénomène de conjoncture, c'est comme ça ?
Oui, enfin, si j'avais une explication...
Par exemple, le basket, bon, vous aimez le basket,
ah, mon Dieu, alors
quand
ça, c'était
8e chez les hommes, bon, 8e chez les femmes, pas de Jeux Olympiques, quel gâchis, quoi.
Ah, oui, puis le volet, c'est pareil, chez les femmes comme chez les hommes. Mm-hmm. Vous pouvez ajouter l'athlétisme, la natation où les choses se sont pas bien déroulées. Il y a que le judo et l'escrime, comme traditionnellement, qui... Le judo et l'escrime qui surnagent, mm-hmm. comment dire, et qui sont effectivement au niveau de ce qu'on attendait d'eux. Même si en escrime, c'est plutôt collectif qu'individuel. On était habitué à avoir un peu plus de résultats individuels, non. J'ai absolument aucune espèce d'explication, bien entendu. Enfin, bien entendu, oui, j'en ai pas. Je pense que d'ailleurs, ça ne doit pas être les mêmes explications en fonction des disciplines. J'observe quand même que y a quelque chose qui m'a frappé, qui est un petit peu commun pour le coup... aux trois sports collectifs dans lesquels nous étions engagés cet été, c'est-à-dire le basket, le volley et le rugby. Je signale au passage qu'il fut un temps où on aurait été bien content d'être en phase finale des championnats d'Europe de volley et de basket.
Oui, c'est sûr.
Ce temps a existé. Ouais, on l'oublie, mais il y a 20 ans, on n'y était pas quand même. Mm-hmm. Enfin, il y a 25 ans. Très franchement, j'ai vu à la fois un renforcement dans ces trois sports, et dans le foot d'ailleurs c'est pareil, de la défense sur toute autre forme de de compartiment du jeu. Et deuxièmement, je ne sais pas pourquoi, mais ces équipes françaises ont eu un mal de chien à entrer dans les matchs et à entrer en particulier dans les mi-temps.
Mmh. On va reparler, hein, parce qu'on a la surprise au téléphone.
Ah, donc c'est une surprise vélo,
vous l'avez promis. Bah oui, c'est Paris-Tour aujourd'hui.
Oui. C'est Paris-Tour.
On part régulièrement de Paris-Tour. On a notre ami Éric Boyer au téléphone. Éric, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va du côté de Paris-Tour ?
Ah bah ça va bien. Écoutez, pour le moment à Saint-Arnoult, le public commence à se rapprocher du départ et les coureurs commencent à arriver les uns derrière les autres en bus, évidemment. Donc il y a une petite manifestation bien sympathique ici, proche du marché local. Donc c'est bien agréable.
Quel est l'état d'esprit du peloton ? Est-ce qu'il y a la tête aux vacances ou certains vont et veulent faire encore la course ?
Bah, j'en connais qui sont déjà en vacances. J'ai eu du mal à trouver, moi, 8 coureurs pour prendre le départ. Et je caricature un peu, comme, tout de même. Non, il y a des coureurs, effectivement, comme Sylvain Chavanel, qui était déjà parmi les meilleurs sur le Paris-Nice, qui a fait le Tour de France, qui a fait le Tour d'Espagne derrière, le championnat du monde. Donc je dirais que sa saison, lui, a été riche et bien remplie. Et il était encore jeudi dernier au départ de Paris-Bourges. Et puis, il est en vacances, donc, depuis jeudi soir. Des vacances bien méritées. D'autres qui ont eu soit des pépins de santé ou soit qui n'ont pas été performants, on va dire, en début de saison. Et donc, on les retrouve ici en fin de saison. Donc, j'ai quand même ici quand même des coureurs qui sont motivés.
Donc, il y a un beau coup à jouer encore pour les Français. Hein. C'est une épreuve qui a bien réussi aux coureurs français ces dernières années, Paris-Tours.
Oui, Jacques Durand, Richard Virenque et Guédon l'an dernier. Guédon qui avait déjà gagné le Paris-Roubaix, qui a gagné le Paris-Tours ici l'an dernier. C'est vrai que c'est une épreuve qui bizarrement, je dirais, quand on la regarde, ne propose pas à un Français, je dirais, d'être le favori. Mais le résultat démontre que les Français le sentir à chaque fois, enfin régulièrement très très bien.
Alors on a donc ce matin un véritable fondu de sport. Monsieur le député Jean-Frédéric Poisson, que vous devez connaître, hein, vous êtes...
Oui. Bonjour déjà... Monsieur Boyer.
Bonjour Monsieur le député.
On était voisins de table à la Gentleman il y a 2 ans.
Exactement, on était voisins de table et je me souviens, vous m'aviez gentiment reçu à la mairie de Rambouillet.
C'est exact, à propos du Tour de France féminin.
À propos à l'époque où j'avais effectivement un projet de monter un Tour de France féminin avec un ami et gentiment vous nous aviez reçu et
oui,
on avait dit ensemble voilà, si
je me souviens.
On pouvait faire un départ ou une arrivée chez vous.
Absolument.
Ouais, c'était bien sympathique en tout cas.
Alors vous savez sans doute que j'ai donc à nouveau fini dernier de la Gentleman cette année, donc conformément à mon habitude. Donc voilà.
L'essentiel, c'est de participer.
Exactement. J'entretiens la tradition et la proximité avec le sport cycliste, monsieur le directeur.
C'est bien. Et peut-être, écoutez, je vous ferai peut-être une proposition un jour, si vous voulez.
Ah oui. Oui, c'est ça. Attendez que je puisse entrer dans la catégorie grand vétéran, alors, parce que...
Eh ben on sera ensemble.
D'accord.
Voilà. Oui, monsieur le député, vous étiez admiratif pour le combat que mène Eric à travers sa fonction manager général de Cofidis.
Oui, oui, ça c'est sûr, parce que en plus, monsieur Boyer a pris la direction d'une équipe qui avait été massacrée par un certain nombre de rumeurs et de pratiques concernant le dopage et des pratiques d'accompagnement personnel, on va dire questionnables pour pas dire plus, il y a quelques années. Premièrement. Deuxièmement, je disais tout à l'heure à l'antenne, monsieur Boyer, que je faisais partie de ces spectateurs qui considèrent que le Tour de France peut parfaitement être couru à 32 km de moyenne plutôt que 40 et des arrivées d'étape à 17h30 plutôt que 16h30 et que tout le monde s'en sortira très bien et qu'il n'y aura plus cette nécessité de recourir à ces produits un peu bizarres et merci donc de faire partie de ces managers et dirigeants sportifs qui veulent couper la tête au dopage et je suis de ceux qui sont parfaitement conscients que c'est une affaire très très compliquée et très lourde et qu'on n'en sortira pas demain matin. Pour le coup.
Oui, en effet, c'est très difficile. C'est un combat, c'est un vrai combat. Je le prends comme ça et quand on mène un combat, eh bien, on prend des coups. J'en ai pris cet été, mais c'est pas pour autant que j'abandonne. C'est pas parce que il y a des moments difficiles que c'est surtout pas dans les moments difficiles qu'il faut abandonner. Okay. Effectivement, on a eu un problème. L'essentiel étant pour le coureur qui nous a un petit peu trahi de s'expliquer derrière correctement, humainement, et montrer qu'en effet, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais on va y arriver. On va y arriver, c'est long, ça va être encore long, on va encore prendre des coups. Mais on doit sauver notre sport qui donne une image depuis trop d'années un petit peu difficile et on s'aperçoit que les jeunes ne veulent plus, ne rêvent plus de faire ce sport et c'est à notre génération de les faire rêver à nouveau, même si ça doit prendre encore du temps.
Il y a un élément quand même nouveau dans ce combat que vous menez, c'est que l'affichage désormais de la direction du Tour de France est d'une clarté absolument limpide pour le coup, alors que l'ancien directeur général sur le sujet, je ne veux pas dire qu'il était favorable au dopage, mais enfin, il était quand même plus hésitant et plus réservé. Dans ses déclarations publiques, en tout cas.
Oui, c'est pas la même génération. En effet, avec Christian Prudhomme, Patrice Clerc, Gilbert Isern, qui sont les trois dirigeants d'Aresto, oui. En effet, il y a une clarté de vouloir organiser leur épreuve, et surtout le Tour de France, en toute transparence. Et c'est vrai que cette année, nous avons vu sur le bord des routes un public très nombreux, et surtout un public qui était supporter et soutien de ce Tour de France du cyclisme au sens noble du terme. Mmh. C'est-à-dire qu'on voyait que le public, on les écoutait, on les entendait, qui venait soutenir ce sport, vraiment nous aider. Et ça nous a fait du bien. Quand on voit que le public est intelligent, connaît bien ce sport, que le public se déplace voir le Tour de France, attend des heures pour voir passer les coureurs, et puis vraiment véhicule l'image d'un public qui était vraiment venu en soutien de ce sport, qui était vraiment venu nous soutenir. Alors ça nous a donné beaucoup d'espoir.
C'est bien, ça c'est bien. Et alors comment, je peux monsieur Carnus, je peux poser
allez-y,
une question,
allez-y.
Je fais le journaliste sur le plateau.
Invité, hein,
je voulais vous demander, Éric Boyer, comment réagissez-vous comme en tant que directeur sportif lorsque le champion du monde de cyclisme, Paolo Bettini, il y a 3 semaines, ou 15 jours ou 3 semaines, gagne une course alors qu'il a refusé de signer l'engagement de la charte de l'UCI?
Ben on a du mal avec ça.
C'est vrai qu'on
a du mal. Et Paolo Bettini est un coureur qui a du talent.
C'est sûr.
Même,
oui.
Mais c'est un coureur qui ne veut pas, qui ne participe pas avec nous à la lutte contre le dopage. On demande aux coureurs d'être totalement transparents, de montrer une volonté de vouloir lutter contre le dopage. Et Bettini n'a pas montré cette volonté. Alors on s'adresse à lui, on lui demande de venir nous rejoindre et on s'adresse surtout à son directeur sportif, à son patron, à celui qui le paye. Et là, on a aussi des difficultés. Donc on voit bien qu'il y a encore des mentalités à changer. On voit bien qu'il y a encore des coureurs, je dirais, qui profitent un petit peu de ce sport pour exister, mais qui ne participent pas à la reconstruction de ce sport, et c'est dommage.
Très bien, Eric, merci. Donc départ vers 11h, 11h10, hein, c'est ça?
11h30 exactement.
D'accord, ok.
Et je voudrais dire à monsieur le député que si un jour il veut accueillir une étape du Tour de France, départ ou arrivée.
C'est bien.
Je peux le mettre en relation.
Ça m'étonne pas de vous, monsieur Boyer. Merci de cette proposition.
Merci.
Merci, Eric. Merci à vous.
Bon
à très
dimanche.
Bientôt.
Au revoir.
Merci, bye bye. Voilà. Donc, c'était la surprise. Hein. C'est aussi d'actualité. Donc, Paris Tour qui part à 11h30 hein, de Saint-Arnoux en Yvelines. On va continuer à commenter l'actualité. Le rugby, on va en parler tout à l'heure avec Jean-Michel, mais enfin, vous allez aussi vous exprimer. Oui. Cette défaite de l'équipe de France, monsieur le député, vous en pensez quoi? Grosse déception? Ou alors,
J'ai envie de vous dire, premièrement, je l'ai un peu dit tout à l'heure déjà, la France fait partie des 4 meilleurs pays du monde au rugby. Je vous fais observer qu'avant le départ de la compétition, elle était 5e au classement international. Mm-hmm. Donc ça veut dire que nous sommes au-dessus de notre rang international dans cette. Mm-hmm. Premièrement. Mm-hmm. Deuxièmement. Pourquoi on est déçu? Parce que
on organisait
le championnat du monde chez nous.
Oui, oui.
Il y a trois précédents sports collectifs. Le volleyball, on termine 5e, mais là, mm-hmm. je vous parle comme Diaz d'Avour, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est en 86. Mm-hmm. Deuxièmement, il y a la Coupe du monde de football, on gagne.
Mm-hmm.
Et troisièmement, il y a le champion du monde de handball, qu'on gagne. Et alors le rugby s'est dit, on peut pas faire moins, donc on va gagner. Sauf que c'est quand même plus compliqué que ça. Troisièmement, je vous redis que ce que je disais déjà un petit peu tout à l'heure, même si je peux, j'ai peut-être le temps de détailler maintenant, j'ai été surpris par le fait que nous avons fait hier soir un moins bon match que contre les All Blacks. L'Angleterre n'a pas mieux joué que ce qu'elle a joué contre l'Australie, j'ai pas trouvé. Elle a joué son rugby et nous n'avons pas joué le nôtre. Donc c'est une guerre de système de jeu, c'est-à-dire c'est dans ces trucs-là, c'est laquelle des deux équipes arrive à imposer son système de jeu à l'autre. C'est les Anglais qui ont gagné ce match-là. Deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi, et alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique, mais là j'ai pas la réponse, je ne comprends pas pourquoi on a un mal de chien à rentrer dans le match et à chaque début de deuxième mi-temps. C'est comme s'il y avait 5-6 minutes de préchauffage pendant lesquelles on se demande, enfin je sais pas, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est les deux, je comprends pas. Déjà contre les Irlandais, souvenez-vous, c'était un petit peu le cas. Contre les Blacks, le début de deuxième mi-temps, on a quand même eu la trouille un peu. Et hier soir, je pense qu'on a perdu le match en début de deuxième mi-temps. Mm-hmm. Par la conjugaison de deux effets, qui est cette très mauvaise entame de deuxième mi-temps, bien pire encore que la première. La première, c'est sur un fourbon. Damien Traille a fait un bon match, mais c'est pas Poitrenaud. Les arrières vont vers le ballon. Ceux qui sont par arrière, ils l'attendent. C'est comme ça depuis le début de l'histoire du rugby. On va pas changer ça. Et la sortie de Boxis, qui à mon avis est un moment tout à fait déterminant dans ce match, parce que quand Boxis sort, il reste pour jouer au pied chez les Anglais Wilkinson et Cat, qui est Mike Cat, qui est un 5-8e, et nous on n'a plus que Traille quand il a le ballon, et Michalak n'a pas le jeu au pied de Boxis. Il a beaucoup de vertus, mais il n'a pas celle-là. Et puis il y a ce que beaucoup de commentateurs ont dit hier, et je crois que c'était vrai, c'est cette question du détail. Alors Jean-Baptiste Elissalde à la télévision hier soir, vous l'avez vu tous comme nous tous, ça tient à rien. C'est vrai,
oui,
ça tient à rien, une cuillère, un truc, mais je vous ferai remarquer que ça tient à rien non plus pour les Anglais.
Oui.
Dire que le rien en question, la cuillère, Vincent Clerc il la prend parce qu'il y a un défenseur. Wilkinson tape le drop parce que on prend la pénalité là qui fait passer de 9-8 à 8-11. Pourquoi? Parce que on rate une relance au pied, on l'envoie pas au bon endroit et ainsi de suite. Donc cette gestion, je sais pas ce qu'il faut en penser. Je sais pas si mentalement on était moins fort que ce qu'on a été contre les Blacks. Puis dernier point, physiquement. On pensait que c'est les Anglais qui vieilliraient, qui se fatigueraient avant nous, et en fait, c'est nous qui étions pas là sur la dernière partie du match. Donc ça pose le problème de la gestion. Je continue à ne pas comprendre, mais je suis pas le sélectionneur ni le manager général de l'équipe de France du rugby. Je continue à ne pas comprendre quand il y a aussi peu de différence que ça entre des joueurs comme Harry Nordeki, Martin, Nallet. Je mélange exprès les deuxième et troisième lignes parce que c'est là qu'on a aussi perdu un peu les coups. Hier soir, on peut les faire tourner, franchement. Et je comprends pas pourquoi on l'a pas fait. Mais message, nous sommes dans les 4 meilleures nations du monde de rugby en demi-finale de Coupe du Monde. Il va falloir aller chercher la 3e place parce que ça soit contre les Sud-Africains ou
mental,
les Argentins.
Pas la 3e place, c'est mental.
Il va falloir jouer quand même le match parce que c'est pas bon. Et quel que soit l'adversaire qu'on aura, ce sera pas simple.
Ouais.
Donc voilà.
Les Anglais, qui sont quand même nos bourreaux, hein, ils nous aient, trois fois en Coupe du Monde sur quatre, donc ils nous battent, hein, quart de finale en 91, demi-finale en 2003, demi-finale en 2007, et puis on a le sentiment qu'on a du mal à chaque fois à se relancer après un grand exploit. Pour le rugby.
Alors ça, c'est un deuxième de mes sujets d'incompréhension, d'ailleurs sujet habituel de conversation avec votre collègue Jean-Michel Borgard. Oui. Comment se fait-il qu'avec des lignes arrière pareilles, on n'envoie pas le ballon au bout? Ça, je ne comprends pas non plus. Et alors, j'ai l'impression que la Coupe du Monde, alors laquelle était-ce? Je pense que c'est la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, quand on a perdu cette finale, on s'est fait ratatiner la toute première. C'est là qu'on s'est dit, on va commencer à jouer au rat et on va oublier d'aller envoyer le ballon. Alors, il y a 20 ans, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais j'observe hier qu'à chaque fois qu'on a porté le ballon aux ailes, il s'est passé quelque chose. Alors, ça veut pas dire qu'on a perforé, qu'on est arrivé à mettre, mais ça veut dire que la défense anglaise a été déstabilisée à chaque fois qu'on avait cet avantage sur un regroupement, sur une mêlée fermée, sur une touche. On a perdu les ballons. Le nombre de ballons qu'on a perdu en touche entre les Blacks c'est impressionnant aussi. Il y a des fondamentaux à interroger là aussi, sans doute. Donc voilà, je pense que on a la possibilité de jouer le ballon à la main. C'est comme ça qu'on a gagné les plus belles victoires du rugby français. Se sont faites le ballon à la main. On arrive en finale en 87 parce que ce fameux essai du bout du monde
de Blanco
Blanco. On bat la Nouvelle-Zélande de samedi dernier parce que entre Traill, Josion et Michalak, il se passe quelque chose à la main que peu d'autres savent faire, c'est vrai. Et on ne joue pas ce jeu-là. Et ça, je ne comprends pas.
Hier, dans les commentaires d'après-match, c'était un peu l'impression qu'on n'avait pas joué notre jeu. Quoi. C'était l'impression de beaucoup de gens du rugby.
On joue notre jeu, c'est-à-dire on est capable de jouer le jeu qu'on a joué hier. La première mi-temps, quand Boxis est là, et Boxis a fait un match. Enfin, il a passé 50 minutes sur le terrain, extraordinaire. Enfin, 100% de réussite au coup de pied. Il mettait les coups de pied en touche à 2,50 mètres du point de cible idéal où il pouvait les mettre. Enfin, il a fait un grand numéro, Boxis. C'est un type qui a un très très grand talent. Et il a cette puissance de jeu et cette précision de jeu au pied. Ça me rappelle des Botta, des Pienaar, etc. Enfin, les grands arrières ou demi sud-africains qui étaient des spécialistes en la matière. La puissance de frappe, la précision, la vision du jeu, il a tout. Enfin, on n'est pas champion du monde non plus par hasard, des moins de 21 ans. Donc,
bien sûr.
Voilà. Mais avec un ouvreur comme celui-là, certes, c'est un ouvreur qui est capable de jouer comme il veut. Alors, il est moins bon, sans doute, que Michalak quand il faut passer le premier rideau ou jouer à la main les premières relances, etc. Peut-être. En attendant, on a joué notre jeu lorsque, à la fois, on a défendu et qu'on a été capable de renvoyer comme Boxis l'a fait les Anglais chez eux. Quand on s'est fait déborder physiquement et tactiquement en début de deuxième sur l'impact, et puis on n'est jamais revenu. Et les quelques occasions qu'on a eues, je me rappelle deux, trois fois, sur une touche qui est sur le côté gauche là-bas du terrain, à 6, 8, 10 mètres de la ligne, on perd le renvoi. Sur la fameuse mêlée à 5, là, après l'offensive d'Elissal et le coup de pied à suivre, on perd la balle en introduction ou on fait une faute de placement après. Enfin, voilà. Il y a des gestions de ces phases-là qui sont, voilà. C'est un peu mystérieux, mais ça donne du travail au manager, c'est bien.
Alors, l'après-midi avait plutôt bien commencé puisque malgré un voyage tourmenté, l'équipe de France de foot gagne.
Petite promenade en forêt contre les îles Féroé hier, parce que bon, ça arrivera pas tous les jours.
C'est sûr, mais enfin, ils ont fait le match sérieux quand même, parce qu'en d'autres temps, il y a eu des moments où c'était un peu plus dur de se mettre dans le match.
Ah oui, c'était ça.
Ils ont rempli leur contrat.
Tiens, pour le coup, c'était sérieux. On a failli en prendre un ou deux quand même.
Malgré tout, les îles Féroé n'ont pas fait un mauvais match.
Non, on a failli en prendre un ou deux, comme d'habitude, sur coup de pied arrêté, une balle de la tête. Enfin, ça nous rappelle des souvenirs, souvent. Bon. 6-0 contre les îles Féroé, les îles Féroé, ça se situe dans le ventre mou de la deuxième division, quoi, on va dire, en termes de niveau comparable. Donc, il n'y a rien d'impressionnant, mais ça n'échappe à personne. Bonne promenade de santé. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est le... Parce que là, quelle que soit l'opposition, pour le coup, on voit si entre les joueurs, la fluidité, la communication, elle existe ou pas, quelles que soient les intentions de jeu sont là. Et alors, d'abord, Anelka, Henry, il faut qu'ils rejouent ensemble.
Ça fait longtemps
que tout le monde le dit, mais...
Maintenant,
Il y a peut-être des... Non. Moi, j'ai pas toutes les raisons non plus, donc je veux pas... Enfin, Anelka, Henry, ça me paraît quand même plutôt marcher bien. Et alors, Ben Arfa, Benzema...
Surtout Benzema. Ouais.
Là, c'est pareil.
Ça, c'est un très gros choix.
Là, il y a des trucs. Là, il y a comme des trucs. Alors, s'ils trouvent derrière le bon, les bons approvisionneurs de ballons pour les faire jouer, et il y en a dans le championnat français actuellement, plus ou moins jeunes, mais il y en a. Je pense que ça peut, il peut y avoir une relève intéressante. Là encore, l'équipe de France est dans la situation où elle est à l'Euro 2008 de foot.
Troisième pour l'instant.
Ce qui n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que on a pêché en défense depuis le début. On perd la Coupe du Monde sur une erreur de défense. On est en difficulté sur cette qualification sur une erreur de défense. L'Euro de basket s'est fait sur une défense gruyère, alors qu'avec 4 joueurs NBA, la défense est quand même la culture des NBA, on pourrait croire que bon. Les volleyeurs n'ont pas fait le truc parce que d'habitude ils dévient tous les ballons, ils ramassent tout, il n'y a rien qui tombe chez eux, etc. C'était pas le cas cette fois-ci. Donc, non, notre pays a un problème avec l'énergie à consacrer à la défense.
C'est quoi ? C'est la rigueur qui manque ?
Je ne sais pas, parce que par ailleurs, ils ont déjà fait ces trucs-là. Ils ont déjà, ils savent le faire, ils savent jouer, ils sont pas dans les plus grands clubs européens ou mondiaux par hasard non plus. C'est pas Tony Parker, trois fois champion NBA, qu'on va apprendre qu'il faut défendre. C'était d'ailleurs, lui, il a plutôt fait pour le coup. Mais ses copains, ils y étaient pas. Il y a un problème de collectif. La défense est collective. De toute façon, c'est comme tout le reste, et plus encore que l'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas le dire. Si je savais.
C'est pas le côté individualiste des Français qui ressort à travers ça.
Non. Pourquoi pas, mais j'en sais rien.
Allez, il nous reste une petite minute. Oui. Donc le temps est passé très vite.
Mais oui, comme
il y a un exploit, plus particulièrement une performance qui vous a plus particulièrement retenu l'attention cette année 2007 sur le plan sportif.
Alors j'ai beaucoup aimé deux choses. La première, c'est la médaille d'argent de Romain Ménil à la perche au championnat du monde, parce que il la mérite depuis longtemps. C'est un type qui a une meilleure performance à sa 5,95, donc c'est quand même pas un petit perchiste. C'est sa deuxième ou troisième médaille internationale seulement après 10 années de carrière ou même un peu plus. Mais c'est un type qui, on aimerait bien voir des sportifs comme ça tout le temps. Et la deuxième chose, c'est probablement la performance des équipes d'escrime française au championnat du monde, là aussi. Il y a à peu près un naufrage ou pas loin en individuel, enfin pas des choses.
Beaucoup de médailles par équipe.
Et beaucoup de médailles par équipe. Et puis, si quand même, l'exploit de l'année, à mon avis, sera pas loin du champion des champions. C'est le jeune Riner au championnat du monde de judo. Parce que alors, ça, c'est quand même, en envoyant au tapis le japonais le premier, très fort.
Merci beaucoup, monsieur le député.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir de venir chez vous.
Très bien. Merci. Allez, on continue avec Tribune Rugby, dans quelques minutes. On y va.